Mémoire d'un continent.
Ilikiam Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Histoire d'une région d'Afrique, la Sénégambie. La Sénégambie, ce n'est pas seulement un concept politique. Ce n'est pas la Confédération sénégambienne qui a été créée en 1981 sous l'impulsion du Sénégal et de la Gambie. Le Sénégal à l'époque dirigé par le président Abdou Diouf et la Gambie dirigée par Daouda Jawara. La Sénégambie, c'est une réalité historique beaucoup plus ancienne, beaucoup plus ancienne, antérieure à la colonisation proprement dite. C'est une vaste région dont les frontières précises sont un peu difficiles à délimiter. Disons qu'en gros, ça va du sud des pays mauritaniens jusque à la Sierra Leone. Et cette région est un espace d'une très grande complexité. Cet espace existe, mais en même temps, elle présente une personnalité, une capacité de recevoir des injonctions de l'extérieur, mais aussi une capacité de répondre à ces injonctions, le tout dans une complexité sociale, politique, culturelle, qu'il faut évidemment essayer de démêler. C'est un espace de contact, un espace de rencontre, et bien sûr un espace d'initiative. Pour parler de cette région sur laquelle il y a beaucoup de textes, quelques textes en français bien sûr, mais relativement peu de textes en français qui embrassent la totalité de la région. En revanche, beaucoup de textes en anglais, beaucoup de textes en portugais. Et je reçois aujourd'hui José da Silva Horta, qui est professeur à l'université de Lisbonne, où il dirige le master d'histoire africaine de cette université. Hélas, c'est le seul master d'histoire africaine qui existe aujourd'hui au Portugal, un pays dont nous connaissons les relations anciennes avec l'Afrique, et surtout un pays où les ressources pour la recherche sont extrêmement nombreuses. José da Silva Horta, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié beaucoup de textes importants, notamment un texte fameux, l'introduction à ses réflexions, le commerce et les réseaux commerciaux dans la grande Sénégambie, un autre encore sur commerce, commerçants et relations interculturelles dans la grande Zambie, qui est un numéro spécial de la revue Mandé Studies. Qu'est-ce que vous appelez Great Sénégambia?
Cette question du concept de Great Sénégambie, Grand Sénégambie, en portugais, Grande Sénégambie, on a parti évidemment du concept qui a été formulé par Boubacar Barry. Sa synthèse est très importante, comme vous dites. Il y a, ce sont des rares des travaux qui vraiment ont comme objectif connaître toute cette région, et le travail de Boubacar Barry est un des travaux importants. En plus, qu'il a vraiment décidé de penser comment les sociétés africaines s'organisent dans cet espace, dans ces grands méta-espaces, je dis, et comment elles ont vraiment, à cette méta-région, comment elles sont articulées, soit avec le grand commerce transsaharien et ses liens du commerce jusqu'à presque la côte atlantique, et puis, dans un deuxième moment, et on parle bien de la longue durée, évidemment, un deuxième moment, comment cet espace s'est ouvert à l'Atlantique. Et c'est la question qu'on trouve que c'est important. Parce que vraiment, on croit que, et quand je dis j'ai travaillé là-dessus avec Edward Costadi, et puis un peu avec Peter Mark, on a parti vraiment du concept de Boubacar Barry pour l'élargir un peu, parce qu'on pensait que la Sierra Leone ne pouvait pas être mise en dehors de ce concept. Mais même en bien bénéficiant de cette réflexion stimulante de Boubacar Barry, la question est celle-ci. Est-ce que vraiment il y a un espace du point de vue africain? Je crois que oui, même qu'on peut dire que les sociétés elles-mêmes, soit par exemple, si on parle déjà au moment du contact avec l'Atlantique, on parle au 15e, 16e, même si les sociétés elles-mêmes n'ont pas conscience de cet espace, et en vrai, il a tout un fonctionnement, comme vous disiez, de rencontres, d'articulations, et que donne une certaine identité à cet espace. Et du point de vue d'un historien comme moi, que je travaille surtout à partir du 15e siècle, ça c'est très important, parce qu'on fait des comparaisons, et on ne peut pas dire que toutes les régions de l'Afrique atlantique sont ouvertes de la même façon au commerce des Européens, comme la Grande Sénégambie. Et c'est une question très importante parce que si vraiment les Européens ont commencé à faire le commerce à cette région, ça, c'est parce que vraiment les sociétés de la région étaient en général, et j'y vais, je crois qu'il faut discuter ça un peu, en général étaient vraiment intéressées à cette connexion, à cette articulation.
Alors, lorsque donc le contact se fait à la fin, à partir du milieu du 15e siècle, progressivement, vous avez dit que ces régions ont des contacts avec l'extérieur, évidemment par le Sahara. Alors, quand on parle de contact avec l'Europe, on pense tout de suite à la traite. Mais avant les Européens, est-ce qu'il y avait aussi des relations, violentes, destinées à se procurer des esclaves pour les besoins locaux, pour les besoins extérieurs?
Évidemment, c'est une question très chaude de l'histoire de l'Afrique. Toujours, on demande toujours cela. Est-ce qu'il y avait de l'esclavage et de la traite avant l'arrivée des Européens? Et bien sûr qu'il y en avait, mais il faut faire des différences. Je crois que c'est très, très... Et alors, ici, on peut même tomber sur les sources, même du 15e, du commencement même de ces contacts. On voit, par exemple, comment Alvise d'Amosto, il parle de Jolof, la Confédération Jolof, qui était très importante, qui se situait entre la rivière du Sénégal, la vallée du Sénégal et la vallée de la Gambie, en pensant à la côte, mais un peu pour l'intérieur. Et vraiment, Alvise d'Amosto nous dit que le bourg Jolof, le roi, enfin disant le roi, entre guillemets, de Jolof, pas une question de... Je ne vais pas discuter ici une autre question très intéressante. Est-ce qu'il y a des rois et des royautés en Afrique, en cette Afrique? Mais je crois qu'on peut parler en souveraineté, en souverain sans problème, et sans problème, sans souci conceptuel, sans doute. Et il nous dit qu'il était un peu admiré parce qu'il dit... Bien, mais ce roi d'ici, mais il attaque ses propres villages, ses populations pour faire des esclaves. Mais en principe, alors en pensant au roi du point de vue idéologique de l'Europe, du bien commun, chrétien, etc., ça lui a choqué un peu. Mais c'est, pour nous, c'est important à comprendre c'est vraiment une évidence de la liaison entre le nord de la Sénégambie et tout ce grand réseau qui traversait le Sahara jusqu'au nord de l'Afrique. Parce que vraiment, bien avant la traite atlantique, il y avait cette traite des esclaves et beaucoup d'autres marchandises. On parle beaucoup des esclaves, mais il faut faire attention à ça et bien discuter. Peut-être en avant, on pourra parler un peu de l'ivoire, par exemple. Mais en fait, il y avait ces esclaves qui arrivaient à la Méditerranée par les axes commerciaux transsahariens.
Alors, le contact avec les Portugais, il se fait comment? C'est violent, c'est incertain. Est-ce que dès le départ, on sait pourquoi ils sont venus là? Est-ce par curiosité? Est-ce pour des besoins stratégiques et autres? Quelle est la part du commerce, du politique, du culturel, du scientifique et peut-être du religieux?
Oui, ça c'est une question très intéressante et il n'est pas complètement évident parce que les premiers contacts ont été très violents, en fait. Et ça a commencé même à ce qui est aujourd'hui la Mauritanie. Et à les années 40 du 15e siècle, jusqu'à, on peut dire même, dès 1440-41 jusqu'à 1448, il y a eu des attaques systématiques des navires européens, et surtout portugais, avec aussi une collaboration italienne importante. Mais les Portugais, ils vont, le premièrement, avoir une stratégie militaire. Enfin, on peut parler des pirates, si vous voulez. Ils voulaient vraiment faire des esclaves et obtenir d'autres marchandises par la force. Et ça, et ce premier moment a laissé même quelques marques, même à la mémoire en Mauritanie, ce que c'est intéressant, parce que sont vraiment très peu d'années, et ça, quand même, il y en a pas mal de traditions en Mauritanie, de certains groupes qui se revendiquent d'être ceux qui ont combattu les Portugais. Et ça, mais cette période a été petite. Et pourquoi est-ce que ça est arrêté? Parce que, pour deux raisons. Parce que d'un côté, les Africains qui étaient à la côte commencent à fuir. Mais surtout, soit au nord du Sénégal, soit au sud, ils ont bien résisté à ces stratégies des Portugais. Et c'est la faillite. Parce qu'en fait, si les Portugais voulaient vraiment avoir des esclaves, alors s'il y avait de la résistance, et même quand on arrive au sud de la rivière du Sénégal, ils vont avoir des flèches empoisonnées et choses pareilles, ça va être un désastre total du point de vue des Portugais. Alors, ce moment est rapide, et les Européens ont très rapidement changé de stratégie, et dorénavant, la stratégie va être diplomatique, commerciale. Et bien sûr, et ça va dépendre totalement de la volonté des Africains pour vraiment continuer ces contacts et faire le commerce.
Je suis avec José da Silva Horta, historien, professeur à l'Université de Lisbonne, pour évoquer l'histoire très compliquée de cette région de la Sénégambie. José, si on prend maintenant les groupes sociaux qui sont en présence, vous avez parlé des souverains africains, bon disons les détenteurs des pouvoirs politiques ou autres. Du côté portugais, c'est beaucoup plus compliqué, parce que c'est un groupe, ce sont les Portugais d'abord, mais très vite on voit apparaître ce groupe que vous appelez les Luso-Africains, qui ont auparavant été appelés l'Ansad ou Xtangoumaouch. Alors, ce changement de mots, ces concepts, avant d'arriver aux Luso-Africains, qu'est-ce que ça voulait dire de concret?
Eh bien, alors, quand on parle des relations entre les Africains et les Européens, il faut penser qu'il y a que les Européens vont avoir le commerce s'ils respectent les règles des régions, des sociétés. Et ça est complètement essentiel. Et ça veut dire que les sociétés africaines, et on parle pas seulement évidemment des souverains, on parle par exemple des réseaux de commerçants qui traversaient toute l'Afrique de l'Ouest et qui vont être ces marchands vont être en même temps quelquefois des ennemis, mais surtout des partenaires des marchands européens. Ça, c'est très important. Et le fait, c'est qu'il a fallu que les Européens, en ce cas surtout les Portugais, s'adaptent à l'identité que lui est attribuée par les sociétés africaines. Et ils seront acceptés dans cette région, dans cette métarégion, en tant que commerçants. Ça, c'est une chose très importante. On ne parle pas à colonisation, même en concession de terres. Pas du tout. On est dans une longue période qui va jusqu'à la fin du 19e siècle, grosso modo, où les sociétés locales vont vraiment dominer les relations et au moins définir les règles. Alors, les Luso-Africains, l'Ansad, Xtangoumaouch, évidemment que Luso-Africain est un concept que nous formulons au moment contemporain. Quand on parle de l'Ansad, on parle d'une chose, d'un phénomène très intéressant. Parce qu'en fait, le commerce, la cible du commerce qui est fait à l'Afrique de l'Ouest, à cette partie de l'Afrique de l'Ouest, est dépendant de la figure du médiateur culturel et économique et commercial. Et ce médiateur va être le Lançado et ses descendants afro-portugais, et puis après franco-africains, anglo-africains. Mais au commencement, ces commerçants, ils vont choisir de vivre dans un contexte africain et avoir des familles africaines et vivre dans ces sociétés parce que c'était la seule façon de pouvoir prospérer hors de la tentative de monopole du commerce par la couronne portugaise. Et monopole qu'elle n'a jamais eu. En fait, c'est très intéressant parce qu'il y a un souverain africain de ce qui est aujourd'hui Sali Portugal, le port c'est Sali Portugal, un lieu très à la mode du point de vue touristique, qui était à l'époque Port Dali, qui avait un souverain qui était le Teigne, on peut l'appeler le Teigne si on va utiliser les catégories africaines, et qui disait une chose très intéressante au commencement du XVIIe siècle. Quand il faisait face aux Européens qui étaient là, il disait, et ça c'est des anecdotes qui se racontent et qui circulent par la voie orale, par toute la côte. Si vous voulez, vous les Européens, Portugais, Français, Hollandais, vous voulez faire la guerre, vous la faites à la mer. Parce que la terre est à moi. Et ma terre, c'est uma feira franca, uma feira, un marché où tout le monde peut faire le commerce.
Un marché libre, franc.
Un marché libre, précisément. Et cette différence nous montre qui domine qui. Parce que vraiment, c'est ça. Alors, les luso-africains.
Alors, luso-africain, c'est la contraction de luso, Lusitanie, le Portugal, africain. Donc, c'est les Portugais-africains.
Les Portugais-africains, un groupe qui a en commun d'appartenir, venir du monde atlantique, assurer le commerce et être identifié par les sociétés locales à ce que les sources appellent blanc. Même que la question n'était pas la couleur de la peau. Mais quand même, ça c'est un point important. Et c'est ce groupe qui est fait des Portugais qui s'avaient enfui du Cap Vert, de la métropole, pour faire le commerce. Par exemple, les descendants de Juifs qui faisaient l'option de vivre un peu plus librement de sa religion et s'enfuir en Guinée. Et puis, tous les descendants qu'ils ont eus, et même les Africains qui sont identifiés en tant que chrétiens ou portugais ou blancs. Et alors, ça c'est très important de comprendre parce qu'il y a un paradoxe qui est ceci. D'un côté, il est très intéressant de voir les choses des deux côtés. Le côté portugais ou européen. Bien, il y avait une couronne qui voulait un monopole, mais qui avait, à la fin, besoin de ses hommes médiateurs. Alors, d'un côté, elle voulait les faire sa persécution, parce qu'il était, à son avis, illégaux. Il ne pouvait pas rester à la côte africaine. Mais d'un autre côté, jamais on a fait du commerce tout 15e, c'est au moins la fin du 15e, 16e, 17e, 18e, sans cette figure du médiateur. Et c'est très important. Le point de vue africain. Alors, évidemment, pour les souverains africains, c'est indifférent s'ils faisaient le commerce avec des Portugais, des Français, des Hollandais. Et son grand objectif était assurer qu'il y avait beaucoup de navires dans ses ports. Ça, c'est la chose la plus importante. Alors, évidemment, la couronne n'a plus jamais emprisonné ces lançades. Et ça a bien prospéré et a continué normalement.
Merci beaucoup, José da Silva Horta, pour ces éclaircissements sur cette grande et belle région de la Sénégambie. Une histoire qui est en construction. Vous avez plusieurs projets en cours et nous nous retrouverons certainement pour une autre émission de Mémoire d'un continent qui se termine ici. Réalisation Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.